professeur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, où il est également le doyen de la faculté des sciences sociales et politiques, Jean-Michel de Voël est notamment spécialiste des régimes politiques d'Europe centrale. Son travail de thèse a aussi été consacré à l'étude de l'émergence des partis politiques après la chute des régimes communistes dans les pays de la région. Au micro de Pierre Maignan, Jean-Michel de Waël raconte le processus de rétablissement de la démocratie en Europe centrale et plus précisément en République tchèque. Il émet tout d'abord des réserves sur l'emploi de l'expression de transition démocratique.
Chapitre de l'histoire.
C'était l'idée en 89-90 que les pays communistes devaient connaître une période de transition, de passage d'un État autoritaire à un État démocratique et qu'il y avait un chemin à parcourir. Alors ce fut fort à la mode, la transition démocratique. Évidemment, les politistes sont très critiques, et à mon sens, à juste titre, parce que quand commence la transition, est-ce que c'est vraiment en 89 pour un certain nombre d'États, comme en Pologne, ça commence évidemment bien plus tôt, en Hongrie aussi. Deuxième grande question, c'est quand est-ce que c'est la fin de la transition? Est-ce que c'est quand on rentre dans l'Union européenne? Est-ce que c'est lors des premières élections démocratiques? Et puis, dernière question, c'est finalement, est-ce que dans un monde mondialisé, globalisé, est-ce que tout le monde n'est pas en transition d'un monde industriel vers un monde post-moderne? Donc, et vous avez raison, cette question de la transition démocratique, c'est un terme journalistique qui pose plus de questions qu'il en résout.
D'accord, alors de quoi faut-il parler?
Je pense qu'il faut parler du rétablissement de la démocratie. On a connu en 89 l'effondrement d'un système politique et on a vu après, de façon plus rapide qu'on ne le pensait, en Europe centrale, l'établissement des normes démocratiques avec des élections où les perdants s'en vont, plusieurs partis, le choix des électeurs. Donc il y a incontestablement, évidemment, le changement d'un système économique et le changement d'un système politique. Le fait d'avoir un système démocratique ne nous dit rien sur la qualité de la démocratie. Et je pense qu'en Europe centrale, nous avons à l'évidence des régimes démocratiques, en ce sens que les citoyens peuvent se débarrasser des gens qui sont au pouvoir, qu'il y a le choix entre plusieurs options partisanes. Autre question est, mais quelle est la qualité de la démocratie, du débat démocratique? Est-ce que la démocratie est bien citoyenne? Est-ce que les citoyens s'engagent démocratiquement? Là, évidemment, la réponse est certainement plus nuancée.
Alors, plus concrètement, dans le cadre de ce rétablissement de la démocratie en Tchécoslovaquie, vous accordez une importance particulière au rôle des partis politiques, il me semble. Comment ils se sont formés en Tchécoslovaquie? On imagine qu'ils ne naissent pas ex nihilo. Quel rôle aussi pour le forum civique à cette époque, le forum civique qui était constitué des dissidents tchécoslovaques?
Oui, donc ma thèse, c'était de dire que là où un instrument obligatoire de la démocratie, les partis politiques, on peut ne pas aimer les partis politiques, on peut être critique des partis politiques, mais force est de constater qu'il n'y a pas de démocratie sans partis politiques. On n'a jamais rien inventé d'autre que les partis politiques, et même les partis uniques, ou même d'ailleurs les pays à partis uniques ont besoin de partis politiques pour gouverner. Donc les partis politiques sont véritablement incontournables, même s'ils doivent évidemment s'adapter aux nouvelles réalités. Alors évidemment, en Europe centrale, ce fut un processus lent. Le forum civique a joué un rôle extrêmement important, mais très court finalement, puisqu'il était un espèce de parapluie général d'ensemble reprenant toute une série de courants, de formations allant de l'extrême gauche à une droite nationaliste. C'était en fait le rassemblement de tous les anticommunistes de gauche ou de droite, de tous les opposants au régime. Ce rassemblement très fluide, très souple, a joué un rôle déterminant lors des premières élections démocratiques et dans l'établissement de la démocratie. Mais bien entendu, une fois que les opposants avaient disparu, une fois que le régime s'est effondré, la raison qui avait donné lieu, qui avait donné naissance au forum civique ayant disparu, le forum civique s'est lui-même rapidement dissous, mais a donné lieu à... ce fut rapidement un terreau pour d'autres partis politiques. Toute une série de personnes ont quitté le forum civique pour aller rejoindre ou pour aller créer d'autres partis politiques.
Alors justement, comment s'est ensuite polarisée la scène politique en Tchécoslovaquie ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de polarisation, puisque les deux plus grands partis des années 90, l'ODS et le Parti Social-Démocrate, ont accompagné les mesures de privatisation de ces années 1990, et ils ont même conclu un accord à la fin de cette décennie ?
La République tchèque est un cas tout à fait particulier. En Europe centrale. Tout est différent en République tchèque que dans les autres États. Pourquoi ? D'abord parce qu'il reste le Parti communiste, qui reste encore aujourd'hui un acteur. Deuxième grande différence, c'est que le Parti social-démocrate tchèque n'est pas l'héritier donc, du Parti communiste. Ailleurs, en Europe centrale, les partis sociaux-démocrates en Pologne, en Hongrie, sont l'héritier des partis communistes, transformés, c'est des mutations, c'est des transformations, mais enfin il y a une filiation génétique entre la gauche démocratique actuelle et les communistes historiques, ce n'est pas le cas en Tchécoslovaquie. Troisième grande différence, c'est effectivement, assez rapidement, vous allez avoir un parti social-démocrate et une ODS libérale conservatrice qui vont occuper le devant de la scène et qui vont le faire en s'enracinant. Je veux dire, en Pologne, que dire de la Slovaquie, dans les États baltes, vous avez une fluidité partisane très très grande, alors qu'en République tchèque, vous avez deux formations qui, à la fois s'opposent, mais évidemment s'opposent sur des mesures politiques peut-être secondaires par rapport aux enjeux majeurs qui ont été l'établissement du capitalisme, l'adhésion à l'OTAN, l'adhésion à l'Union européenne. Alors on peut discuter sur le rôle de la Tchéquie dans l'Union européenne, le rôle de Václav Klaus, toutes les critiques eurosceptiques, mais en attendant, il y avait un accord massif sur l'adhésion de la Tchéquie à l'Union européenne. Donc les différences ne sont pas des différences sur le système économique ou le système politique, elles sont des différences comme on peut en trouver dans n'importe quelle démocratie entre le centre-gauche et le centre-droit. Mais il faudrait vraiment discuter beaucoup plus longuement pour se mettre d'accord en Europe centrale sur la question de savoir si c'est la gauche, qu'est-ce que la gauche et qu'est-ce que la droite.
Alors, on a évoqué une des différences, de plusieurs différences de la République tchèque par rapport aux pays voisins. Il y en a peut-être un autre, c'est le fait que la région de la Tchécoslovaquie avait déjà connu la démocratie avant la Seconde Guerre mondiale. Quel impact ça a pu avoir justement sur ce renouvellement dans les années 90 d'un modèle démocratique ?
Oui, c'est évidemment une question fascinante. Est-ce que l'expérience démocratique plus longue de la Tchécoslovaquie a pesé ou a facilité le rétablissement de la démocratie ? Personnellement, j'ai des doutes. Parce que finalement, la Pologne, qui avait connu très peu d'expérience démocratique, s'est stabilisée quelques années plus tard que la Tchécoslovaquie, mais la situation économique était bien pire. Donc, je pense qu'il y a évidemment des continuités et des ruptures. Ce qui a facilité les choses, en tout cas, c'est certainement que en Tchécoslovaquie, on a pu se raccrocher à une histoire positive, à une histoire dont on peut être fier. Les Tchèques peuvent être fiers de cette période de l'entre-deux-guerres. Ils ont trouvé des leaders comme Masaryk, par exemple. Mais enfin, les sociaux-démocrates, les démocrates chrétiens, chacun a pu se réinscrire dans une histoire, ce qui facilite les choses par rapport à des pays où, à vrai dire, il fallait un peu un peu inventé l'histoire, où l'histoire était franchement inexistante. Donc, je pense que ça a facilité quelque part les choses, mais je ne pense pas que ce soit un facteur déterminant. Ce qui est très, très intéressant, c'est d'examiner les permanences de comportement électoral. Vous avez, et ça, c'est évidemment pour les politistes, des phénomènes tout à fait remarquables, où il y a tout de même des régions qui votaient déjà communistes durant l'entre-deux-guerres et où on continue à voter communiste après. Donc il y a des traditions familiales, des cultures politiques peuvent se maintenir. Je pense que ça, ce qui explique la transition démocratique, avec tous les guillemets qu'il faut autour de ce terme, en ce qui concerne, je pense que c'est véritablement plusieurs facteurs. C'est le facteur historique, c'est la façon dont le régime est tombé, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de tentative de social-démocratisation du Parti communiste, c'est le fait qu'il y avait un personnel et des élites disponibles pour conduire les réformes. C'est l'ensemble de ces facteurs mis côte à côte qui peut expliquer le mode de passage à la démocratie qu'a connu la Tchécoslovaquie. Il ne faut pas croire qu'un seul de ces facteurs suffit pour expliquer l'ensemble du processus.